Le débat africain. Alain Foucault.
Il semble loin le temps où en Afrique, l'autorité décidait, prenait des dispositions quasi militaires, les infirmiers débarquaient dans les écoles, collèges et lycées, mettaient les enfants en rang et les vaccinaient en masse, sans attendre l'accord des parents. Cette fois-ci, même si les subsahariens n'ont pas encore mis au point un vaccin, l'immense partie de la population, comme celle du reste du monde d'ailleurs, veut comprendre d'abord. Elle souhaite connaître les avantages et les inconvénients des produits qui leur sont proposés avant de se faire vacciner. Bien que les quantités achetées par les États et les dons de certaines institutions ne soient pas suffisantes pour couvrir les besoins des Africains, il faut reconnaître qu'ils ne se bousculent pas vraiment pour se faire piquer. Bien des volumes risquent de terminer leur trajectoire dans la poubelle. Faut-il aller se faire vacciner contre la Covid-19? Quel vaccin pour l'Afrique? Quels sont ceux disponibles? Lesquels sont les plus efficaces et les plus dangereux? Faut-il vraiment aller se faire vacciner? Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche au vaccin contre la Covid-19, avec plusieurs invités, plusieurs spécialistes africains au téléphone. D'abord le docteur Prissy Kamchouin, cardiologue à Paris, investi dans divers cadres associatifs sur l'offre sanitaire au Cameroun. Bonjour docteur Prissy Kamchouin.
Bonjour monsieur Foucault.
Second invité de ce plateau consacré au vaccin de la Covid-19 en direct de Dakar, Cheikh Ibrahima Niang, professeur d'anthropologie médicale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, socio-anthropologue. Bonjour professeur Cheikh Ibrahima Niang.
Bonjour Alain.
Notre troisième invité est le docteur Amadou Alpha Sall, administrateur général de la fondation Institut Pasteur de Dakar. Bonjour docteur Amadou Alpha Sall.
Bonjour monsieur Alain Foucault.
Nous devions être rejoints par le docteur Guy Sandjon sur ce plateau, le président de l'Ordre des médecins du Cameroun. Mais il est malheureusement retenu dans une salle d'opération, ce qui naturellement est plus urgent et plus vital. Alors, est-ce que vous n'avez pas le sentiment, vous médecin, que l'on a détourné le regard de ce qui pour vous était le plus important, c'est-à-dire, est-ce que c'est le moment de vraiment s'occuper du vaccin, docteur Amadou Alpha Sall?
Oui, tout d'abord un grand bonjour à vos auditeurs et dire que en fait le vaccin est un élément important. Donc je ne pense pas qu'on détourne vraiment de l'essentiel puisque le vaccin est un complément de la stratégie générale. Dans cette épidémie, il faut aussi bien tester pour identifier les cas, traiter ceux qui en sont malades et notamment les cas sévères et en même temps avoir une approche de prévention. Et c'est pour ça que le vaccin est important d'une part pour atténuer la sévérité de l'épidémie et ensuite pour arrêter cette transmission de manière à aller sur une vie normale. Et donc de ce point de vue-là, la question des vaccins est quelque chose d'important, mais il faut effectivement lui donner sa place, mais que sa place puisque les autres éléments de la stratégie sont essentiels aussi.
Les autres éléments de la stratégie sont essentiels. Professeur Cheikh Ibrahim Niang, est-ce que vous avez le sentiment que le vaccin vient un peu éclipser ce qui pour la plupart des gens apparaissait comme le plus important, c'est-à-dire le traitement?
Oui, je pense que vu sous cet angle, on peut développer cette hypothèse. Mais moi, je verrais le problème sous un angle différent. Mm-hmm. Parce qu'en fait, une épidémie, on réussit à vaincre une épidémie par la prévention, par tout faire pour que les gens ne soient pas malades et qu'ils mm-hmm. n'aillent pas dans les hôpitaux. Parce que c'est au niveau des hôpitaux que se déroulent l'hécatombe et que se déroulent aussi toutes les difficultés de prise en charge. Mm-hmm. Donc, faire de sorte que la communauté, que les sociétés ne tombent pas malades, je pense que toutes les stratégies concourent à cela. Cela dit, les choix par rapport aux stratégies doivent partir d'une considération que les épidémies ne sont pas mutuellement exclusives. Elles s'accumulent et quand on diminue le poids d'une maladie en la prévenant, on diminue par ricochet le poids des autres maladies.
Lorsque vous dites ça, vous avez le sentiment qu'on n'a pas mis un accent sur la prévention aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir cette pandémie, ce virus que l'on ne connaissait pas jusque-là?
Une prévention de plus ou de plus, ça n'est jamais trop. On dit chez nous que augmenter la viande ne gâte rien à la sauce. Mmh. En fait, on n'a pas...
Trop de viande ne gâte pas la sauce, comme on dit chez les Ivoiriens.
En fait, on aurait pu développer davantage la communication communautaire, l'adoption à tous les niveaux des mesures barrières, mais je pense que l'expérience a montré que ce n'est pas suffisant. Il faut une combinaison de toutes ces méthodes de prévention et de toute façon, l'un agit sur l'autre. Et que c'est ça qui fera peut-être que nous allons nous en sortir rapidement, parce qu'en fait, il est question de s'en sortir rapidement, puisque l'épidémie a des effets économiques et sociaux et même politiques désastreux et qui suscite beaucoup de craintes et d'angoisse par rapport à l'avenir des sociétés.
Alors, docteur Prissy Kamtchouin, on voit beaucoup de médecins en Afrique qui disent « moi je ne veux pas me vacciner » et puis « ce n'est pas ça le plus urgent, ce n'est pas ça le plus important ». Que répondez-vous à cela ?
Eh bien, alors, je leur dis que je peux comprendre un petit peu leur discours, mais qu'il faut... À mes confrères qui sont un peu méfiants sur la vaccination et qui expliquent que ce n'est pas le plus urgent. Alors effectivement, dans le cadre du Covid, il s'agit quand même d'un syndrome de détresse respiratoire où les patients sont hypoxiques et où l'urgence, quand on est déjà malade et en forme grave, c'est d'avoir de l'oxygène. Or, effectivement, il y a des États, et donc notamment le Cameroun, parce que c'est quand même le plus... qui m'intéresse le plus, où on a une pénurie d'oxygène. Il y a des gens qui meurent d'hypoxie parce que, enfin, qu'il n'y a pas d'oxygène, il y a des coupures d'électricité, il n'y a pas suffisamment d'énergie et donc on manque d'oxygène. Et il y a des décès par hypoxie, vaccin ou pas vaccin. En fait, on meurt par manque d'oxygène au Cameroun aujourd'hui du Covid ou d'autres choses d'ailleurs. D'autres pathologies qui requièrent un support en oxygène, eh bien, font que des patients meurent. Donc, mes confrères qui sont confrontés tous les jours à ce type de difficultés de prise en charge, et on parle de difficultés pas sur du soin de pointe, hein, on parle d'oxygène, je peux comprendre, même si dans le fond, je suis pas tout à fait d'accord sur la solution. C'est pas parce qu'on manque d'oxygène qu'il ne faut pas se vacciner. Ce qu'il faut, c'est avoir de l'oxygène et après réfléchir de manière parallèle à la stratégie vaccinale.
Les gens vous disent, pour la plupart, on a d'autres urgences, il y a beaucoup d'autres maladies. Est-ce qu'on doit dépenser de telles sommes ? Est-ce qu'on doit mettre autant de moyens sur le vaccin plutôt que de mettre la priorité sur ce qui tue le plus? 113 000 morts pour l'instant du Covid en Afrique, c'est-à-dire un peu moins de 4 fois les morts du paludisme.
Oui, alors c'est vrai. Alors moi, il y a quand même un grand sujet moi sur la morbidité africaine, c'est que je suis toujours épatée par ces chiffres. Alors ce sont probablement des estimations qui sont justes, mais quand on parle de la réalité du terrain, c'est quand même très compliqué de savoir de quoi les gens meurent. On dit qu'il y a 113 000 morts du Covid. Peut-être, oui, il y en a probablement peut-être plus, peut-être moins, idem pour le paludisme. Enfin, c'est assez difficile de savoir de quoi les gens meurent. En tout cas, c'est vrai que dans les prises en charge, on constate surtout un échec de thérapeutiques qui sont parfois simples. Je parle par exemple d'oxygène ou d'antibiotiques d'accès de premier recours. Et donc là, c'est un petit peu difficile. Maintenant, sur la vaccination anti-Covid et la vaccination en général, faut vraiment bien distinguer. C'est-à-dire que la vaccination, depuis un siècle et demi, ça a servi quand même sur toute la planète et sur le développement en fait de pays. Et donc le fait de se vacciner, encore une fois, la vaccination en général, ça a été quelque chose d'assez bénéfique pour l'humanité.
D'accord.
Maintenant,
pour vous,
la vaccination
c'est quelque chose de bénéfique.
Alors attendez, maintenant la vaccination anti-Covid. Pour qui, pourquoi en fait ? Parce que il faut pas oublier que la réalité africaine, c'est pas la réalité occidentale. La moyenne d'âge en Afrique, c'est pas la même moyenne d'âge en Europe. Les patients qui font des Covid graves en Europe, eh ben leur nombre est probablement bien plus élevé qu'en Afrique, tout simplement parce que la moyenne d'âge est beaucoup plus jeune en Afrique. Donc on n'est pas exactement sur la même stratégie de prise en charge du Covid, même s'il y avait une pandémie et une incidence en fait des cas identiques en Afrique et en Europe, je suis pas sûre que le nombre de formes de graves serait identique, tout simplement pour une question démographique. Donc maintenant, à qui faudrait-il vacciner en priorité et penser une vaccination anti-Covid? Bah, de toute façon, oui, effectivement, aux soignants, parce que on n'en a pas beaucoup. Il y a malheureusement pas beaucoup de confrères au Cameroun et on a perdu des confrères du Covid hein, encore récemment. Donc ça, je pense que c'est important de protéger quand même.
D'accord.
Les confrères
pour vous, il faudrait, quel que soit lambda, aller se vacciner. Ça n'empêche pas que l'on soigne aussi par d'autres moyens. Docteur Amadou Alpha Sall, vous qui êtes administrateur général de la Fondation Institut Pasteur de Dakar, aujourd'hui, quels sont les vaccins vers lesquels les Africains doivent se tourner? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire tel vaccin est le plus intéressant, tel vaccin marche mieux que les autres, docteur?
Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire par rapport aux vaccins qui existent au niveau international, c'est qu'il y a un certain nombre que l'OMS a validé, ou qui sont en cours de validation. Et la plupart de ceux dont on entend parler ont soit fait donner des preuves suffisantes de leur sécurité, ou alors ont montré un niveau de résultat qui fasse qu'on puisse s'y intéresser. Maintenant, quel est le sujet majeur aujourd'hui par rapport au vaccin et l'accès. Quand je parle d'accès, c'est qu'il n'y en a pas assez. Il y a un certain nombre de vaccins qui s'est capté par les pays plus riches, parce qu'il y a une certaine dynamique, et il y a aussi le fait que l'initiative qui a été mise en place, qui est l'initiative COVAX, par laquelle beaucoup de pays africains comptent, sur laquelle beaucoup de pays africains comptaient pour vacciner au moins 20% de la population, connaît des difficultés liées au fait que les pays comme l'Inde, sur lesquels on s'était reposé pour approvisionner le COVAX, connaissent un certain nombre de difficultés. Donc l'accès est le problème numéro un.
Et donc, j'ai envie, docteur, que l'on parle au plus grand nombre et qu'on leur dise, qu'on apporte des réponses aux questions qu'ils se posent. Vous savez très bien que beaucoup ne veulent pas aller se vacciner. Beaucoup ont peur de ces vaccins qui sont proposés. Et il faut dire que les rumeurs sur les réseaux sociaux, mais également ce que l'on voit à la télévision, où on arrête un coup, on reprend tel produit, personne n'est rassuré vraiment. Alors, vous êtes à Dakar. Il y a des vaccins qui sont arrivés à Dakar de différents horizons. Aujourd'hui, de façon très très claire, vers lequel vaccin le Sénégalais lambda doit-il se tourner lorsqu'on l'invite à se vacciner? Et est-ce qu'il a raison d'avoir peur de ces vaccins?
Alors, au niveau du Sénégal, deux vaccins sont disponibles aujourd'hui. Un premier vaccin qui est le vaccin Sinopharm, qui a été acquis grâce au gouvernement du Sénégal dans le cadre de sa relation bilatérale pour acheter à la Chine. Et un deuxième vaccin qui a été acquis, c'est le vaccin AstraZeneca via COVAX. Et un certain nombre de vaccins sont attendus dans le cadre des initiatives soit de l'Union africaine, Johnson & Johnson, et aussi AstraZeneca pour la suite. Alors, quand les Sénégalais aujourd'hui veulent se vacciner, ce sont ces deux vaccins qui sont disponibles dans notre pays. Et c'est pour ça que j'élaborais autour de la question de l'accès. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'on a des ressources qu'on peut avoir accès à des vaccins. Et donc, la question centrale, c'est pas à quel vaccin on a accès, c'est quel vaccin est... Quel vaccin
on va arriver à cela, docteur, mais là, on a envie d'expliquer aux gens qui ont peur, d'expliquer aux gens qui ne comprennent pas trop, parce que peu de gens comprennent finalement vers lequel il faut se tourner. Donc vous dites aujourd'hui, au Sénégal, on a le Sinopharm qui arrive de Chine et l'AstraZeneca par le biais de COVAX, c'est bien ça?
Exactement, c'est bien ça.
Est-ce qu'entre les deux, il y en a un qui est meilleur que l'autre et pour quelle raison?
Non, ce que je peux dire, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, parce que quand on regarde les données sur l'efficacité, ils sont entre 70 et 80%, c'est ce qui avait été données, et quand on regarde le processus par lequel l'OMS les a évalués, ils sont à un niveau de sécurité qui est relativement rassurant. Maintenant, quand on commence à administrer un certain nombre de doses de vaccins, nous sommes dans une échelle qui dépasse le cadre des essais cliniques qui ont permis d'avoir ces premiers résultats. Et bien évidemment, on voit de temps en temps des effets secondaires qui sont visibles que quand on vaccine une large masse. C'est ce qui a fait le débat autour de l'AstraZeneca pour parler des caillots de sang qui avaient été vus et qui a fait que pendant une certaine période, beaucoup de Sénégalais disaient dans la perspective d'avoir du Johnson & Johnson, vaut mieux attendre parce que c'est une dose, parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire rapporté, etc.
Il faut préciser que les deux, AstraZeneca et le Sinopharm, c'est deux doses.
AstraZeneca et effectivement Sinopharm, c'est deux doses. Alors, quand les Sénégalais disent on va attendre effectivement, c'est légitime parce qu'ils veulent prendre le moins de risques possible. Et de ce point de vue-là, quand Johnson & Johnson, il est rapporté aujourd'hui un certain nombre de caillots, comme c'est le cas d'AstraZeneca, ça veut dire qu'une chose, ça veut dire qu'on fait des larges campagnes et qu'on va avoir de temps en temps des effets secondaires qui invite à la prudence. Mais ça ne veut pas dire qu'à côté de ça, il y a des millions de personnes qui ont été vaccinées et qui n'ont connu aucun problème. Donc, ma réponse par rapport aux communautés, elle est la suivante. Leurs interrogations sont légitimes, mais il faut savoir qu'un certain nombre de précautions ont été prises à différents niveaux. D'abord, sur le plan scientifique, ces vaccins ont été développés selon les standards qui sont assurés que c'est des vaccins sûrs et que c'est des vaccins qui protègent. Deuxièmement, les instances de régulation internationale, comme l'OMS, comme un certain nombre d'instances nationales comme au Sénégal, qui ont examiné grâce à des groupes d'experts l'ensemble de ces résultats ont fait ce travail pour s'assurer que les populations sont protégées.
Et
troisièmement, il y a toute une dynamique quand on administre les vaccins de surveillance de ces effets secondaires pour justement, quand il y a un problème, alerter et dire Astra, arrêtons-nous, examinons est-ce qu'il y a un
On va parler de la surveillance dans un moment. On va parler de la surveillance parce que ça fait partie aussi des craintes d'un certain nombre de personnes. Professeur Cheikh Ibrahim Niang, lorsque vous entendez cela, comment expliquer que, même si le docteur Sall nous rassure maintenant, comment expliquer que même certains scientifiques refusent de se faire vacciner? Comment ça s'explique cela aujourd'hui, vous qui êtes socio-anthropologue?
Oui, mais ce n'est pas que les scientifiques, c'est aussi les gens dans les communautés. Dans les
sociétés. Oui, au-delà des communautés, ça peut encore s'expliquer, mais les scientifiques qui sont censés connaître...
Ils ont les mêmes peurs, hein, ils ont les mêmes réflexes. Parce qu'en fait, c'est à quel niveau se situe la sûreté et l'efficacité. Quand on va dire que le vaccin est sûr, on a déjà vacciné des millions d'individus, il n'y a que 3, 4, une dizaine de cas ou une vingtaine de cas qui ont connu des problèmes ou qui ont enregistré des cas même d'effets indésirables, quelquefois sévères. En fait, on se situe à des échelles différentes. L'échelle population, l'échelle démographique, l'échelle épidémiologique est une chose. Et l'échelle individuelle, l'échelle communautaire, l'échelle de la famille, moi quand beaucoup entendre parler du vaccin et de problèmes aux États-Unis, en France ou ailleurs, ils sont en train de penser à la grand-mère qui est ici à côté, ma grand-mère qui est dans la maison, ou bien ma famille, mon épouse, mon mari, mon grand-père. Donc le fait que cette personne court le risque d'avoir des effets secondaires, cette personne, il faut la rassurer. Il faut la rassurer par une communication adéquate. Je crois que le docteur Sall l'a très bien dit. Une communication. Il faut un nouveau type de communication pour centrer, pour montrer beaucoup plus d'empathie et de partage des angoisses et des craintes des personnes et répondre de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire
lorsqu'on voit les tâtonnements à la télévision des dirigeants du monde qui un coup disent on va arrêter l'AstraZeneca, le lendemain on reprend Johnson & Johnson, ça ne marche pas. Comment voulez-vous que les gens soient rassurés dans ces circonstances-là, puisque eux-mêmes ils cèdent à la panique?
Oui, parce que il y a cela. Ensuite, il faut qu'on apprenne à être humble et modeste. On ne peut pas présenter les vaccins comme étant les balles magiques qui vont régler tous les problèmes. Il y a du tâtonnement. Comment faire de sorte que la société partage ce tâtonnement et prenne le risque de partager ce tâtonnement? C'est-à-dire que dès le départ, on n'a pas convoqué la société, les communautés, les cultures, dans la réflexion avant le vaccin, avant son développement et avant sa conception.
Oui, mais dans l'urgence, comment pouvait-on le faire? On sait très bien dans quelles circonstances on vivait avec cette pandémie.
Oui, mais les circonstances exigeaient l'urgence d'une communication par rapport à la problématique du vaccin. C'est-à-dire que le paysan qui est dans tel village du Sénégal, il doit se sentir aussi impliqué dans la réflexion autour du vaccin que le médecin qui est dans son cabinet ou bien le chercheur qui est dans son laboratoire. Cette exclusion de la réflexion et de la prise de décision, c'est ça qu'on est en train de payer maintenant. Mais ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard dans la mesure où il faut savoir poser les problèmes en toute humilité. Nous rencontrons tel problème, nous rencontrons telle dimension du problème, comment est-ce que la société tout entière peut réfléchir et se mobiliser pour résoudre le problème? Parce que la pandémie montre que les États montrent la faillite des États, la faiblesse des États par rapport à la construction des réponses.
Ça montre aussi aux scientifiques qu'ils n'ont pas remplacé Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre.
Et les scientifiques doivent connecter l'interdisciplinarité avec les sciences sociales. Ce sont les sciences sociales qui permettent de voir à quel niveau se situent les populations, dans quelle dynamique on peut s'installer pour co-construire avec les populations des solutions quand des problèmes d'urgence se posent ainsi.
Voilà. Et puis, on parlera dans la seconde partie de ce magazine de l'efficacité de ce vaccin, mais également de leur disponibilité. La disponibilité parce qu'il n'y en a pas véritablement si l'on voulait même se vacciner en Afrique aujourd'hui. Et puis, comment on les conserve? On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et on se retrouve très très vite.
Le débat africain. Alain Foucault.
Après la bataille sur le bon traitement qui a secoué la planète depuis le début de la pandémie de la COVID-19, voici depuis quelques semaines celle du vaccin. On l'avait tellement espéré et il en arrive un bon nombre sur le marché. Mais il suscite presque autant de polémiques que celle sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Quel est le bon vaccin? Lequel présente le plus de dangers et d'effets secondaires? Quelle est son efficacité? Combien de temps protège-t-il de la maladie? Les techniques nouvelles qui ont permis de les fabriquer avec une telle célérité ne présentent-elles pas de danger? Des interrogations qui suscitent beaucoup de méfiance et de rumeurs en Afrique, malgré le peu de vaccins achetés par les États ou offerts entre guillemets par les grandes nations et quelques institutions internationales, l'on se hâte très lentement pour se faire vacciner. Le scepticisme et la méfiance semblent avoir pris le dessus. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche au vaccin contre la COVID-19 en Afrique. Plusieurs invités au téléphone. D'abord en direct de Paris, le docteur Prissy Kamchwang, cardiologue à Paris, investi dans divers cadres associatifs sur l'offre sanitaire au Cameroun. Second invité de ce plateau en direct de Dakar au Sénégal, le docteur Amadou Alpha Sall, administrateur général de la Fondation Institut Pasteur de Dakar. Notre troisième invité est Cheikh Ibrahim Anyang, professeur d'anthropologie médicale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est également socio-anthropologue. Voilà pour notre plateau. Et j'ai envie de poser d'entrée de jeu la question au docteur Prissy Kamchwang. On écoute beaucoup de choses autour de ces vaccins. Des gens se disent on n'a pas pris le temps de les fabriquer, qu'un vaccin ça prend beaucoup d'années pour être tout à fait efficace. Est-ce que ces vaccins que l'on propose aujourd'hui, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine, sont moins efficaces, moins fiables que ceux que l'on avait jusqu'à maintenant? Est-ce que ce sont des bons vaccins?
Alors, est-ce que c'est des bons vaccins? En fait, c'est peut-être l'avenir qui nous le dira, parce que si pour l'instant on n'a pas d'anomalie majeure et que surtout on n'a pas vraiment d'autres alternatives en Occident sur les diverses, les multiples vagues du Covid, en fait, c'est une espèce de risque collectif qu'on prend tous, parce qu'on connaît l'autre alternative de l'immunité collective qui ne fonctionne pas très très bien. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a un an, quand le Covid est arrivé en Europe, il y a eu diverses stratégies. Il y a des pays qui se sont dit on va tenter l'immunité collective. Ils ont tenté pendant quelques semaines et se sont dit que ce n'était pas une très bonne idée. Donc très vite, on est arrivé sur des phases où il fallait faire du traitement et on n'a pas pu traiter tout le monde. Malheureusement, il y a eu ensuite les morts collatéraux du Covid parce que retard de prise en charge. Et on s'est dit, au bout d'un an, on ne peut pas continuer comme ça pendant des années. Donc l'enjeu, c'était rapidement d'en sortir et donc de fabriquer un vaccin pour essayer de sortir de cette phase.
Mais est-ce qu'on n'est pas allé trop vite?
C'est le problème du nombre de vagues. Trop vite, c'est trop vite par rapport à quoi? C'est-à-dire que si c'est pour, en échange d'avoir une certitude et une sécurité optimale dans un vaccin, on est obligé d'avoir des multiples vaccins pendant des années durant avec, on sait très bien maintenant à quoi ça ressemble, des vagues de Covid avec plus de 7000 de personnes en réanimation, eh bien ce sont des choix politiques qui sont faits. On se dit non, on va aller beaucoup plus vite que ça, d'autant plus qu'ensuite viennent se rajouter des enjeux purement économiques. Une fois qu'il y a un pays qui lance son vaccin, bah, bien sûr les autres suivent.
Les autres parce suivent. Que si, voilà, mais bah, c'est justement bien sûr, ce qui fait peur à un certain nombre de personnes. Et là je me tourne vers le docteur Amadou Alpha Sall. On a écouté des gens dans cette bagarre qui est devenue une bagarre économique, dire le vaccin chinois, on n'en est pas sûr, on ne sait pas trop, peut-être qu'il n'est pas assez efficace, et on a même entendu dire, et puis il n'agit pas contre les nouveaux variants. Est-ce vrai, vous qui pratiquez sur place, qui utilisez ce vaccin chinois aujourd'hui?
Aujourd'hui, ce qu'on peut dire par rapport à l'évaluation qui en est faite, c'est que la plupart des vaccins sont en train de regarder quel est l'impact des variants sur l'efficacité du vaccin. Un certain nombre ont donné des résultats. Et c'est pour ça que, par exemple, Johnson & Johnson a été le choix de l'Afrique du Sud. D'autres, la plupart des producteurs ont montré que vis-à-vis des variants, quelle était la position.
Et donc, il faut préciser qu'au départ, l'Afrique du Sud avait commandé de l'AstraZeneca et s'est rendu compte que ce n'était pas efficace sur les variants sud-africains et a décommandé et puis s'est tourné vers J&J. Oui.
Exactement. Et donc, ce qui est important dans cela aujourd'hui, c'est que les producteurs sont en train de regarder cela et font des essais justement pour voir par rapport aux nouveaux vaccins. Mais jusque-là, AstraZeneca a montré la limite qui existe au niveau de l'Afrique du Sud, et les autres sont relativement rassurants par rapport aux différents variants. Maintenant, ce qui est très important à comprendre, c'est que nous sommes dans une situation qui est dynamique. Aujourd'hui, le fait d'avoir des variants, c'est quelque chose qu'il faut regarder et voir comment cela se comporte dans la dynamique de l'épidémie. Aujourd'hui, quand on parle d'épidémie, il faut avoir en tête trois choses. Il faut avoir qu'il nous faut des vaccins pour arrêter les choses, parce que c'est une partie de la solution. Il faut aller vite, donc il y a le facteur vitesse qui est très très important, et il faut voir ce que vont donner les variants. C'est sur la base de ces trois paramètres et l'assimilation, la mise en œuvre des différents autres éléments de prévention, de traitement et de diagnostic des cas qu'on va pouvoir juguler cette épidémie. Alors je voudrais juste rebondir sur un point par rapport à ce que vous disiez concernant la vitesse. Mmh. Il est important de ne pas suspecter ces vaccins par rapport qu'à la vitesse, parce que faut savoir que jamais le monde n'a été confronté à ce tel problème. Donc il y a une mobilisation exceptionnelle de l'ensemble du savoir-faire de l'industrie pharmaceutique pour sortir les vaccins. Et deuxième élément qui est très important, on a fait appel à différentes technologies, dont les nouvelles technologies d'ARN qui permettent de gagner plus de temps. Donc toutes les mesures classiques et pour faire du vaccin ont été mises en œuvre. Mais en plus, là où un vaccin a été mis en place et mis au point par une ou deux industries, là on s'est retrouvé avec 10, 15 meilleures sociétés de production de vaccins dans le monde qui se sont mobilisées, et toute une kyrielle d'acteurs pour que ça marche et que ça évite, depuis le problème de la fabrication jusqu'au problème de réglementation, de distribution, etc. Jamais le monde a eu à fabriquer des milliards de vaccins en si peu de temps. Tous ces vaccins ont été évalués selon les différentes phases pour s'assurer d'abord qu'ils sont sûrs, ensuite qu'ils sont efficaces et après qu'ils seront surveillés. Et ce message est très important par rapport à la question que vous soulevez, dans la mesure où les populations ont encore des craintes légitimes, mais qu'il faut leur donner la bonne information. Ce n'est pas parce qu'on est allé vite qu'on a loupé des étapes. On est allé vite parce qu'on a travaillé avec de nouvelles approches et qu'on a travaillé aussi collectivement et très rapidement avec l'ensemble de ce que donnent les nouvelles technologies actuelles.
Oui, mais dans le même temps, docteur Amadou Al-Fassal, avec les variants qui arrivent de partout, on entend même des variants bretons maintenant, il y a eu des variants anglais, il y a eu des variants sud-africains, brésiliens, etc. Est-ce que c'est pas de nature à se dire que bon, ces vaccins, finalement, au moment où ils sortent, sont déjà obsolètes parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur le marché et qui, bon, ne réagissent pas de la même façon?
C'est pour ça que je vous indiquais tout à l'heure dans mon propos qu'il est important de vacciner et d'aller vite. Parce que chaque fois qu'on a une infection qui se passe, c'est l'opportunité de créer un changement dans le virus qui peut avoir un impact du type d'un variant. Mais il faut savoir que ce n'est pas une dynamique qui est nouvelle. Les virus ont toujours varié. Si vous prenez le cas de la grippe, chaque année, on est obligé de faire un nouveau vaccin. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire, qu'on a appris à faire, qu'il faut que l'on puisse travailler. Et maintenant, dans cette épidémie qui dure longtemps, il faut savoir que l'expérience de la grippe, mais aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a un système mondial qui surveille ces nouveaux variants. Et chaque fois qu'il y a un nouveau variant, il y a cette réflexion, est-ce que le vaccin est efficace? Est-ce qu'on peut diagnostiquer correctement? Est-ce que ça a un impact sur le traitement? Et c'est ça, cette dynamique qu'il faut mener. C'est pour ça que j'insistais, il faut aller vite, il faut les vaccins, mais il faut surveiller les variants, parce que ce sont les trois paramètres qui, à mon avis, vont changer le cours de cette épidémie.
Alors, on se rend compte que ces vaccins ne sont pas aussi faciles que cela à conserver. Elles sont souvent à des températures particulièrement basse, très basse, dans des pays où on a un peu de mal avec l'énergie. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gens se retrouvent, précis Kam Chuen, avec des vaccins qui sont obsolètes parce qu'on n'a pas su les conserver?
Bah, alors là, c'est effectivement la puissance publique qui s'occupe de gérer, d'acheter, d'acheminer, distribuer, stocker, qui doit elle-même être responsable de toutes ces étapes, en fait, et d'avoir réfléchi et mis en place en amont toutes les sécurités pour que le matériel de vaccination acheté puisse arriver dans les meilleures conditions possibles.
Oui, mais là, ils ne vont pas électrifier là où ils n'avaient pas électrifié jusqu'à maintenant. Je vais dire, est-ce que d'entrée de jeu, les gens qui sont dans la zone rurale ne sont pas pénalisés finalement?
Ah ben là, je suis bien d'accord avec vous. Effectivement, si vous avez des problèmes structurels, vous aurez les plus grandes difficultés à faire preuve à faire preuve d'efficacité dans ce type de situation un peu exceptionnelle. Donc, bien sûr que le Covid et cette pandémie ne permet pas, par l'achat de vaccins, de régler tous les problèmes structurels. Par contre, moi, je tiens quand même à mettre le doigt là-dessus, c'est que il est quand même dommage que toute cette solidarité internationale ce qui a été mis en place pour aider les pays les plus pauvres, les pays d'Afrique à acheter des vaccins, ben on n'est pas plutôt fait usage de cette solidarité internationale pour justement améliorer tous des problèmes qui sont structurels et qui permettraient d'être plus efficaces. Et c'est évident que les populations sur place sont extrêmement méfiantes parce qu'elles vivent beaucoup plus que moi cette réalité.
Justement,
il y a des banques, il y a des banques du sang qui manquent de sang parce que on a eu des pannes, qu'il n'y a pas eu de génération et qu'il a fallu tout jeter à la poubelle.
Le professeur Cheikh Ibrahim Niang, vous qui êtes anthropologue médical à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal, est-ce qu'aujourd'hui les conditions sont réunies si les vaccins arrivaient, parce qu'on va parler dans un instant justement de la disponibilité de vaccins, et si les vaccins arrivent, est-ce que le cadre est suffisamment bien fait pour qu'il soit bien conservé et est-ce que les gens sont formés pour pouvoir les administrer?
Que les gens soient formés pour les administrer, sûrement les médecins pourraient répondre à votre question de manière plus adéquate. Mais ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas attendre que toutes les conditions soient réunies. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans des processus de réunion des conditions en même temps que dans des processus de mise à la disposition des vaccins aux populations. Et on doit évoluer par échelle différente. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la question du vaccin n'est pas qu'une question technologique et une question d'infrastructure. C'est aussi une question communautaire, c'est une question politique, c'est une question sociale. Ça veut dire que s'il y a des problèmes d'acheminement, d'électricité et autres, et que la société, les communautés, jusque dans les villages, se mobilisent comme un seul homme, on peut trouver des solutions à ces problèmes-là. Les gens peuvent mettre, ils peuvent acheter des groupes électrogènes par-ci, par-là, et ainsi de suite. Donc, les questions techniques trouvent des solutions quand la dimension humaine et les dimensions politiques et sociales sont réunies. La COVID donne l'occasion au pouvoir et au pouvoir politique de se réconcilier avec leur communauté et avec leur société. C'est-à-dire, il y a un gap de confiance, un gap de communication qu'il faudra résoudre que les communautés s'approprient. Elles expriment la demande. C'est leur vaccin.
C'est leur vaccin. Alors, justement, c'est leur vaccin, mais il y a une dépendance de l'Afrique à l'AstraZeneca qui, finalement, risque de fragiliser cette vaccination. Et là, je me tourne vers le docteur Sall. On sait très bien que l'AstraZeneca a été livré en Afrique par l'Inde. Et on voit aujourd'hui l'explosion qu'il y a en Inde des contaminations, dont l'Inde est totalement tournée vers lui-même. Est-ce que cela ne cause pas un réel problème d'approvisionnement sur le continent de l'AstraZeneca aujourd'hui? Est-ce que même si les Africains se décidaient enfin d'aller se vacciner, on ne serait pas à court de vaccins?
Oui, en fait, la tension au niveau du vaccin dans le monde n'est pas une problématique qui concerne que l'Afrique. C'est vraiment sur tous les continents. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, on n'a pas assez de vaccins. Et donc, l'industrie pharmaceutique tourne à une cadence exceptionnelle pour produire, parce que la demande est largement supérieure à l'offre. Maintenant, sur l'Afrique, ce qui est très clair, c'est que par rapport à ce problème d'approvisionnement, au-delà des initiatives comme COVAX ou de l'Union africaine, il y a cette démarche de l'Union africaine de promouvoir la fabrication de vaccins au niveau local. Et donc c'est dans ce sens-là qu'un producteur de vaccins comme l'Institut Pasteur de Dakar, qui en produit depuis 80 ans pour la fièvre jaune, s'est mis dans une dynamique pour en produire avec des partenariats avec les autres fabricants de vaccins. Et donc c'est dans cette dynamique aujourd'hui que l'Union africaine et le gouvernement du Sénégal et un certain nombre de partenaires se sont mis pour dire qu'il est question aujourd'hui de s'organiser pour produire le vaccin Covid et que l'Institut Pasteur a un programme pour que dès 2022 puisse en approvisionner l'Afrique dans ce sens-là, mais aussi qu'il y a d'autres acteurs en Afrique du Sud, en Égypte, peut-être dans d'autres pays, sous une coordination de l'Union africaine pour non seulement mettre à disposition des vaccins Covid, mais aussi rompre cette situation de dépendance en matière de vaccins vis-à-vis de l'extérieur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Afrique consomme 25% de la production mondiale de vaccins, mais n'en produit que 1%. 99% des besoins de l'Afrique sont importés. Et de ce point de vue-là, toute l'initiative qui est faite aujourd'hui au niveau de l'Afrique et pour laquelle l'Institut Pasteur de Dakar est en vraiment pole position pour justement se mobiliser et de s'assurer que non seulement on peut produire du vaccin Covid, mais pour les autres vaccins dont on pourrait avoir besoin à l'avenir et par rapport à d'autres pandémies, que nos pays soient prêts, non seulement pour la fabrication, mais faire du vaccin, c'est pas que le fabriquer, c'est aussi avoir l'environnement réglementaire pour le distribuer, avoir les talents pour le faire.
Donc alors, je vais poser la question de façon un peu brutale, docteur Sall. Aujourd'hui, dans quel horizon peut-on penser que d'autres instituts comme le vôtre vont produire du vaccin sur place, sur le continent, parce que c'est ce que les Africains se demandent. Si c'était produit sur place, ils auraient un peu plus confiance. Dans combien de temps à peu près? Et quels sont les grands laboratoires qui seraient prêts à en fabriquer sur le continent?
Alors aujourd'hui, sur le continent, il y a quand même plusieurs pays qui ont une expérience ou partielle. Certes, il y a qu'au Sénégal, vous avez un produit qui est le vaccin fièvre jaune qui est préqualifié par l'OMS. Ça n'existe qu'au Sénégal. Mm-hmm. Mais d'autres pays comme l'Afrique du Sud ont déjà une expérience de produire du vaccin, mais de faire du remplissage. Plusieurs pays sont déjà capables de le faire. Et donc l'idée, c'est que pour du vaccin Covid ou pour les autres vaccins, on ait cette capacité au moins dans un premier temps de faire du remplissage, ensuite d'avoir ces capacités de produire. Et donc quand vous parlez d'horizon, je pense qu'il y a un plan très clair qui est en train d'être mis en place par l'Union africaine et un certain nombre de partenaires au niveau international pour qu'à l'horizon 2022 et que d'ici 2040, qu'on puisse avoir une certaine autonomie avec au moins 5 grands producteurs en Afrique qui puissent faire.
Est-ce qu'il y a une bonne coopération dans ce sens? Parce que souvent, ce qui pêche, c'est finalement la coopération entre les différents États.
Alors, la semaine dernière, il s'est passé une grande réunion au niveau de l'Union africaine où justement, il n'y a jamais eu une mobilisation aussi importante. Et donc, aujourd'hui, la stratégie, elle est continentale. Et dans le domaine du Covid, il y a une stratégie qui commence avec une mobilisation au niveau des chefs d'État et qui descend jusqu'aux scientifiques. J'ai moi-même le privilège d'appartenir au conseil d'administration qui génère l'ensemble de ces informations, de ces efforts scientifiques et de coordination. Et je vois qu'il y a une grosse mobilisation. Cela étant dit, bien qu'il y ait justement cette mobilisation, il peut y avoir ça et là, des petites dissonances qu'on peut entendre, mais globalement, la dynamique que je vois aujourd'hui est très positive et le volet coordination par l'Union africaine à travers le site de l'Africa CDCI me paraît quelque chose d'assez exemplaire et unique qu'il faut encourager, même si ça et là, il peut y avoir des imperfections. Mais
ça rassurera pas mal d'Africains de savoir que ces produits sont sur le continent, parce que lorsque l'on lit ce qu'ils disent, c'est qu'ils croient que c'est des produits qui peuvent être dangereux pour eux. Autre question que beaucoup se posent, est-ce qu'on sait quelle est la durée d'efficacité de ces vaccins que l'on prend en ce moment?
Docteur Amadou Al-Fassal. On n'a pas ces éléments précis. On sait qu'on a une visibilité sur 6-8 mois qui peut être liée à l'infection naturelle. Et pour les vaccins, il faut savoir qu'on vaccine réellement de façon large depuis vraiment le mois de décembre. Après, les essais cliniques ont commencé au mois de juillet. Donc, il est difficile de savoir comment va se comporter cette immunité à l'échelle de 2 ans parce qu'on n'a jamais connu ce genre de situation. Maintenant, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il semble qu'entre 6-8 mois, on peut avoir une immunité qui dure. Ça, seul l'avenir nous le dira. Aujourd'hui, pour la grippe, on s'en est rendu compte.
Mais on espère que ce sera plus long quand même, docteur, parce que si on doit le faire tous les ans au prix où ça coûte, ça veut dire que les laboratoires vont vraiment, vraiment se faire du bien et que ça va coûter une fortune pour chacun d'entre nous. Pour qu'on termine, docteur, si vous aviez un conseil à donner, et là je vais poser la question à chacun d'entre vous, professeur Niang, est-ce que vous inviteriez des gens à aller se vacciner aujourd'hui?
Oui, certainement, parce que le principe de l'immunisation, le principe de la vaccination est très ancien et très enraciné dans les cultures africaines.
Alors, docteur Amadou Al-Fassal, je pose la question pour la forme. Vous invitez les gens à aller se vacciner?
Absolument. Pour moi, je pense que c'est essentiel que les gens se vaccinent si on veut arrêter cette épidémie. C'est bien pour leur santé. Ils se protégeraient et ils protégeraient leur communauté, ce qui ne permettra d'arrêter globalement cette pandémie. C'est un des éléments importants.
Prissy Kamchouin, docteur, vous conseilleriez d'aller se vacciner?
Oui, non, mais surtout si vous êtes âgé, surtout si vous avez des facteurs de risque de gravité, surtout si vous devez sortir d'Afrique pour vos affaires économiques. De toute façon, vous n'aurez pas le choix parce que bientôt viendra le passeport vaccinal. Vous ne pourrez pas vous déplacer d'un pays à l'autre si vous n'êtes pas vacciné. Maintenant, si vous avez 20 ans et que vous êtes en zone rurale, qu'on vous propose le vaccin, bah pourquoi pas. Néanmoins, peut-être le laisser à quelqu'un qui répond à des critères de gravité comme l'âge ou des pathologies franchement sévères, cardiaques, respiratoires. Voilà, je pense qu'il faut savoir.
Voilà.
Oui, la vaccination, très bien, mais oui, il faut savoir un petit peu réfléchir quand on est contraint en termes de volume de vaccins et qu'il faut faire des choix.
Bien. Docteur Amadou Al-Fassal, aujourd'hui, le carnet vaccinal, on le fait au Sénégal où il y a pas mal de gens qui sont vaccinés. Est-ce qu'il est valable aujourd'hui pour voyager?
Aujourd'hui, le Sénégal délivre des carnets de vaccination, mais la responsabilité de l'accepter ou pas est dans les pays destinataires. À ma connaissance, il y a une dynamique qui est en train de se créer pour avoir une solution qui soit universelle, mais elle n'est pas en place aujourd'hui de ce que j'en sais.
Merci à vous en tout cas d'avoir accepté de venir débattre, le temps tourne vite, on aurait voulu aller un peu plus loin. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. À très vite.